Bonjour, comme le titre de ma présentation l'indique, je traiterai du miroir en vous exprimant mes observations quant à sa relation avec le manifeste comme forme littéraire. J'aborderai en quoi il peut dynamiser utopie et idéologie, pour ensuite me pencher sur sa portée politique transféministe. Le texte qui sert à ma monstration s'intitule « Scum Manifesto ». Il s'agit d'un pamphlet anarcho-féministe publié par Valérie Solanas en 1967. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite vous faire part de ma démarche pour cette analyse. La première fois que j'ai lu Scum Manifesto, c'est parce qu'on me l'a prêté en me faisant promettre de partager mes impressions à son sujet. Une fois ma lecture terminée, je n'ai que commencé à saisir l'ampleur de la radicalité que ce texte porte. Ce que j'ignorais, c'est que plutôt que de m'arrêter à son contenu propre, j'allais plutôt entreprendre une longue série de réflexions sur plusieurs genres littéraires et leur inscription dans le politique, mais aussi plus spécifiquement à la figure du miroir qui deviendra mon objet d'étude de prédilection. Vous devinez peut-être vers où je me dirige. Lorsqu'on réfléchit le féminisme, la question de l'identité fait rapidement surface. Cependant, par conviction personnelle comme par choix académique, j'ai carrément choisi d'éviter l'approche psychanalytique dans mon analyse comme dans mes recherches. Sans dénigrer l'importance du travail de Lacan sur le stade du miroir et les analyses littéraires qui en découlent, je les abordais pas pour ma part. Maintenant que ceci est mis de côté, laissez-moi vous présenter le résultat de mes recherches. Dans son texte, Valérie Solanas proclame avoir réponse à la domination masculine. L'émancipation des femmes se fera par une violente annihilation des oppresseurs et du système qui les maintient en situation de pouvoir. Initialement, j'ai été surprise de la façon dont elle dynamise l'aspect concret, soit utopique, de son projet politique, en le faisant entrer en relation avec un aspect conceptuel, soit idéologique. J'en suis venue à formuler la problématique suivante. Comment s'illustrent les rapports entre utopie et idéologie dans Scum Manifesto? De façon simplifiée, le féminisme propose selon moi un reflet inversé et nécessaire au patriarcat, une optique critique qui vient divulguer les inégalités, les injustices. Comme je l'ai déjà mentionné, à l'origine de ce travail se trouve un intérêt particulier pour la figure du miroir dans la littérature, mais aussi de sa portée telle qu'abordée par des théories appartenant à de divers domaines. C'est en lisant sur le concept d'hétérotopie de Michel Foucault que j'ai trouvé la prémisse qui m'a mené aux constatations qui suivront. Dans cet extrait, le philosophe réfléchit la relation entre utopie et hétérotopie. Je cite Foucault. « Je crois qu'entre les utopies et ces emplacements absolument autres, ces hétérotopies, il y aurait sans doute une sorte d'expérience mixte, mitoyenne, qui serait le miroir. Le miroir, après tout, c'est une utopie, puisque c'est un lieu sans lieu. Dans le miroir, je me vois là où je ne suis pas, dans cet espace irréel qui s'ouvre virtuellement derrière la surface. Je suis là-bas, là-bas où je ne suis pas, une sorte d'ombre qui me donne à moi-même ma propre visibilité, qui me permet de me regarder là où je suis absent, utopie du miroir. » En plaçant le miroir comme le lieu de l'utopie, Foucault me permet d'aborder le texte de Solanas de la même façon, soit en prenant le miroir comme lieu. Effectivement, à la lecture de Scum Manifesto, l'absence du lieu utopique se fait ressentir. Les propositions littéraires et politiques qu'elle y fait ne semblent pas pouvoir se matérialiser dans un espace concret, car même si elle n'en prévoyait un, celui-ci n'est pas nommé. Afin d'aborder l'idéologie, je m'étais d'abord basée sur ce qu'exprime Marx dans l'idéologie allemande, texte publié conjointement avec Engels en 1932, que vous connaissez probablement. Ils y expriment en la dépression que l'idéologie est un reflet inversé de la société et des conditions matérielles de l'existence à la façon d'une caméra obscura. Cette lecture m'a permis de déterminer un élément important de mon analyse. Ce que je propose ici, c'est que Solanas se sert du manifeste afin de dresser un portrait inversé de la société dans laquelle elle évolue. Les propositions de Solanas dans Scum Manifesto sont utopiques et son texte œuvre également comme le lieu d'idéologie qu'elle revendique. Miroir inversé, car il s'agit d'une utopie illustrée par le contre-exemple, soit par l'illustration qu'elle fait de l'incapacité des hommes au profit des femmes, mais aussi de l'individu de Scum. Plusieurs éléments de Scum Manifesto renvoient au genre utopique. Certains sont formels, alors que d'autres appartiennent directement au contenu de l'œuvre. J'aborderai d'abord les éléments qui sont propres à la forme du texte. Il existe des analogies formelles entre le manifeste de Solanas et l'œuvre éponyme du genre, soit l'utopie de Thomas More. La plus grande ressemblance entre les deux se trouve dans l'organisation du texte qui est annoncée dès l'incipit. Je cite Solanas. Vivre dans une société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors, à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens de responsabilité et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Avec ces trois phrases, Solanas présente la division concrète de ce manifesto. Les deux premières phrases, donc de vivre jusqu'à femme, introduisent la première partie de l'œuvre qui vise à faire une critique de la société dans laquelle l'auteur évolue. Dans la troisième, Solanas présente ses propositions utopiques. Il est caractéristique de l'utopie d'être présentée en deux temps selon le modèle de Moore. La première partie de l'œuvre est traditionnellement une anathématisation de l'ordre établi dans la réalité de l'auteur. Puis la deuxième est porteuse des propositions utopiques qui sont illustrées point par point, ce qui est aussi observable dans l'œuvre à l'étude. L'auteur détaillera les points suivants. Le renversement du gouvernement, le démantèlement du système capitaliste, la modification des modes de production et finalement l'anéantissement du genre masculin. Solanas aborde des thèmes qui sont aussi iconiques du genre utopique, soit par exemple l'organisation de la société en communauté. Les autres éléments qui sont nommés dans l'incipit sont abordés de façon semblable dans tout le texte, soit sous un mode d'énumération de catégories distinctes. Avant d'aborder l'idéologie, j'aimerais vous présenter la relation que celle-ci entretient avec l'utopie, d'après Paul Ricoeur dans son texte intitulé « L'idéologie et l'utopie, deux expressions de l'imaginaire social ». Comme le titre l'indique, ces éléments ne sont pour lui que deux parties d'un seul et même univers social. Les caractéristiques de l'utopie telles que théorisées par Ricoeur sont présentes dans ce manifesto à de différents niveaux. Celle qui m'intéresse particulièrement consiste à la fonction de proposer une société alternative. À ce sujet, il écrit ceci. C'est par cette proposition que l'utopie constitue la réplique la plus radicale à la fonction intégrative de l'idéologie. L'ailleurs, l'autrement de l'utopie répond rigoureusement à l'être ainsi et pas autrement prononcé par l'idéologie prise à sa racine. Cette citation vient illustrer de quelle façon se dynamisent les deux concepts et me permet par le fait même de réfléchir ce qu'est manifesto. Comme je l'ai déjà spécifié, il n'y a pas dans le texte de Solanas d'ailleurs géographique qui soit proposé. Il ne remplit donc pas le critère du genre utopique selon Ricoeur, pourtant il a bien cette fonction qui lui soit intrinsèque. Puisqu'il n'a pas d'ailleurs utopique pour répondre alternativement à l'impératif de l'idéologie, c'est vers celle-ci que je me suis dirigée. Ricoeur détermine que l'idéologie a trois principales fonctions qui sont la fonction de distorsion-dissimulation, la fonction de légitimation de la domination et la fonction d'intégration. La première des fonctions, soit celle de distorsion-dissimulation, renvoie à la conception marxiste de l'histoire. Cependant, cette tâche révolutionnaire que porte en elle l'idéologie vise bel et bien, à l'aide de la figure du miroir inversé, à critiquer la société en place afin d'arriver à un changement plus matériel, tangible que purement doctrinal. Cette impression a d'ailleurs été confirmée à ma lecture lors de l'extrait suivant du manifeste de Solanas. Les agissements de SCUM manifesto de SCUM seront criminels. Il ne s'agira pas de simple désobéissance civile, de violer ouvertement la loi pour aller en prison et attirer l'attention sur l'injustice. SCUM se dresse contre le système tout entier, contre l'idée même de loi et de gouvernement. Ce que SCUM veut, c'est démolir le système et non obtenir certains droits à l'intérieur du système. D'après Ricoeur, la forme rhétorique propre à l'idéologie est employée pour justifier la domination, ce qui est selon lui la deuxième fonction du genre. Il se situe ici aussi près des théories de Marx. Dans ce SCUM manifesto, je crois plutôt que c'est la forme pragmatique du manifeste qui vient légitimer le discours de l'auteur. Finalement, la fonction d'intégration est celle qui, selon moi, entretient les rapports les plus étroits avec le texte de Solanas. C'est aussi celle qui nous permet de déterminer l'importance de la forme du manifeste. Dans ce passage de son texte, Ricoeur utilise l'exemple de cérémonie de commémoration qu'il qualifie d'événement qui permettent aux communautés de réactualiser d'une certaine façon les événements qu'elles considèrent comme fondateurs de son identité. À l'aide de cet exemple, il vient déterminer que l'idéologie peut servir à diffuser la conviction que ces mêmes événements sont fondateurs d'une mémoire collective de l'identité de cette même communauté. Solanas, en exposant à sa façon ses propositions utopiques, nous informe de ce qu'elle évalue comme étant la cellule minimale de la société qu'elle revendique. Je cite Solanas. Une véritable communauté se compose d'individus qui se respectent les uns les autres dans leur individualité et leur intimité, établissent entre eux des contacts intellectuels et affectifs et coopèrent à l'achèvement de buts communs. Pour les traditionalistes, l'unité de base de la société est la famille. Pour les hippies, c'est la tribu. Pour aucun d'eux, ce n'est l'individu. En spécifiant que l'individu que c'est l'individu qui se situe à la base de la société, Solanas revendique non seulement l'intégrité de l'individualité des femmes en tant que sujet, mais elle expose aussi que son texte peut lui-même servir d'acte fondateur. Elle crée ainsi un espace de réflexion de l'utopie et l'idéologie. Il devient le lieu de l'actualisation d'une lutte par son rapport contigu à l'idéologie, et par la figure du miroir inversé, il devient aussi à la place de l'affirmation de l'identité, celle d'être une femme, celle d'être scum. Le texte lui-même s'inscrit alors dans la mémoire collective d'une façon double, soit par l'idéologie comme nous venons de l'observer, mais aussi par la forme du manifeste qui vient renchérir la validité des positions politiques de l'auteur par sa forme. En plus d'être double, le texte devient donc problématique ou polémique, puisqu'il est construit autour du conflit entre deux représentations complémentaires, mais aussi contradictoires. Comme je l'ai déjà mentionné, le manifeste vient répondre à l'absence du lieu utopique dans l'œuvre. Il vient aussi offrir issue à la problématique paradoxale exprimée plus haut. Je vous rappelle que je l'aborde ici en tant que miroir, que c'est ce qui oriente mon analyse. Le texte suivant vient, selon moi, boucler la boucle de ma monstration par les échos théoriques qu'il partage avec tous les éléments mentionnés précédemment. Dans son texte « Introduction à l'analyse des manifestes » publié en 1980, Claude Abbastado s'y intéresse. Il spécifie en introduction que le manifeste n'existe pas dans l'absolu, qu'aucune définition statique ne ferait justice à ses multiples incarnations. Il remarque cependant que dans tous ces textes, comportent des caractéristiques communes, entre autres l'emploi des mêmes modes discursifs. Il tente plutôt de répondre à la problématique suivante. Abbastado, les manifestes où s'expriment des tensions idéologiques, des relations polémiques, des luttes pour la conquête du pouvoir symbolique, ne serait-il pas le lieu sémiotique où peut se lire la pragmatique d'une société? Il remarque que cette fonction discursive a pour effet que, je cite, « se désigne comme manifeste certains actes spectaculaires, souvent violents, d'individus ou de groupes qui veulent, par ce moyen, faire entendre leur voix. » Fin de la citation. Il est assez clair pour moi que c'est bien de cette façon que se reçoit le manifeste de Solanas et les rapports qu'il entretient avec le féminisme. Sans réduire son analyse à la fonction pragmatique du genre, Abbastado illustre également comment se tissent des rapports complexes entre savoir, pouvoir et désir. De ces éléments, je comprends la validation de mes intuitions quant à l'analyse de l'utopie et de l'idéologie telle qu'abordée à l'aide du texte de Ricoeur, entre autres à cause des citations suivantes. D'abord, un manifeste est produit et reçu, il met en parenthèse que les deux perspectives sont liées, comme acte de parole, comme texte de rupture et de fondation. Fin de la citation. Celle-ci renvoie à l'exemple de Ricoeur des cérémonies de commémoration évoquées plus tôt. Ensuite, Abbastado écrit que les manifestes sont des machines de désir. On peut observer qu'un manifeste a toujours pour effet de structurer et d'affirmer une identité. C'est l'acte fondateur d'un sujet collectif mais non institutionnel. Il s'agit de faire exister comme entité reconnue un groupe qui n'est pas encore, organisé en partie, en école, etc. Un groupe animé par des convictions communes et le désir d'action. Cette citation nous renvoie elle aussi au projet politique de Solanas. L'auteur s'intéresse ensuite à l'énonciation et souligne que dans le manifeste, celle-ci est en mode d'autodestination, qui explique ce rituel situé au cœur des écritures manifestaires. Je cite, « Les signataires y informent et contemplent en elles une image spéculaire. » Fin de la citation. La figure du miroir ressurgit encore. Abbastado conclut cette partie de son texte par cette citation, des plus éloquentes dans le contexte de mon analyse, je cite une dernière fois, « La quête d'identité et le désir d'être reconnu motivent aussi la violence polémique des manifestes. Signifier une genèse, une naissance, ne peut se faire qu'en accusant les oppositions aux valeurs dominantes à ceux qui les incarnent. » Et la recherche dans le passé des précurseurs prestigieux oubliés n'est pas contradictoire avec la mise à mort du père. » Fin de la citation. J'ai abordé la question de l'identité du sujet dans la société que Solanas propose. Qui est donc le sujet de Scum Manifesto? Ce sujet qu'elle nomme Scum, cette femme précurseur prestigieuse, serait dotée de tout ce que l'auteur s'approprie des caractéristiques typiquement masculines. Par ce choix, l'auteur ébranle la conception statique d'une féminité cisnormative et hétéronormée. Elle s'en prend par le fait même à ces mêmes caractéristiques qu'elle présente comme étant propres à la masculinité hégémonique, et ce, assez violemment. Ces traits viennent renchérir la conception de cet individu, de ce sujet scum tel qu'abordé précédemment, l'éloignant des stéréotypes des genres hermétiques véhiculés par nos normes de société occidentale. Il serait malhonnête de ma part de ne pas mentionner que Solanas critique également les femmes, principalement celles qu'elle nomme « filles à papa », comme un symbole iconique de cette féminité hégémonique. Selon l'auteur, celles-ci, par leur passivité et leur indolence, viennent soutenir et valider l'oppression masculine en la renforçant par l'affirmative, donc en renforçant par le fait même ses effets pervers. S'oppose donc dans ce cas manifesto ces filles à papa, que Solanas qualifie de gentilles, passives, consentantes, dépendantes, et scum, l'idéal identitaire de Solanas, qui, elles, sont dominatrices, à l'aise, sûres d'elles, violentes. Finalement, grâce aux multiples nuances que les textes abordés m'ont permis d'intégrer à ma propre lecture, je témoigne du texte de Solanas comme un appel à la destruction symbolique d'une masculinité hégémonique plutôt qu'une invitation à tuer tous les hommes physiquement. Nuance. Mon analyse de la forme du manifeste est pour beaucoup dans cette entreprise. À partir de la figure du miroir, j'ai pu le déconstruire pour en retirer des éléments conceptuels divers. Pour conclure, j'aimerais vous présenter les idées principales d'un article publié en août 2015 par le collectif italien Smascheramenti à propos d'une création qui a été faite de Scum Manifesto, où il propose une perspective transféministe à laquelle j'adhère. Dans une démarche similaire à la mienne, il décline une réflexion sur ce que signifie de relire de nos jours cette œuvre qui comprend une invitation à détruire le sexe masculin. Pour Smascheramenti, nous sommes tous impliqués dans des modalités différentes dans la construction de cette masculinité hégémonique, postulat auquel Solanas adhérait probablement. Nous pouvons tous être complices, mais nous sommes tous en mesure de faire quelque chose pour dénaturaliser la binarité des systèmes sexe-genre sur laquelle cette même hégémonie repose. En adoptant une position intersectionnelle et queer, le collectif s'intéresse sur comment se croisent les différentes composantes qui créent l'identité des individus. De plus, et il nomme comment celles-ci s'inscrivent de façon hiérarchique ou oppressante dans nos communautés, ce qui a pour résultat des effets négatifs tels que le sexisme, l'homophobie, la transphobie ou le racisme. À la lumière de ces considérations, le constat qu'il existe des masculinités comme des féminités qui ne sont pas monolithiques devient incandescent. Ces masculinités véhiculées par des corps qui n'y ont pas droit d'une conception cisnormative et hétéronormative viennent miner d'ores et déjà la conception de cette même masculinité. Elle défie le droit à l'exclusivité que les hommes cisgenres pensent avoir sur celle-ci et sa naturalité présupposée. Toutes les subjectivités qui réclament une masculinité non conforme participent à la contamination de l'image d'un idéal masculin absolu et donc sont déjà une réponse à l'appel de Solanas. Les identités trans ou butch ne sont pas pour moi exclues du texte de l'auteur. D'ailleurs, par la définition du sujet de cette société qu'elle souhaite, je considère même qu'elle les inclut, ne serait-ce que par la définition qu'elle fait de la femme scum. Le miroir, comme le manifeste, apparaît donc ici comme des outils de resignification des corps qui véhiculent des codes propres aux expressions de genre ou de sexualité. Smascheramenti qui conclut leur texte en exprimant que pour elle, détruire le sexe masculin signifie libérer les masculinités et en consentir la réappropriation de la part de sujets qui ne pourraient pas les incarner habituellement. Cette réappropriation est, comme je viens de le mentionner, une resignification, car par un discours performatif, ces sujets constituent leur identité par leur affirmation de leur inscription dans leur corps. L'exemple de ma monstration, l'idéologie et l'utopie autour du texte de Solanas, illustre son intégration dans le politique, donc dans l'imaginaire social. J'ai tenté par ma présentation d'aller dans la même direction que le collectif Smascheramenti et d'engendrer ce mouvement de réflexion chez vous, ne serait-ce que pour pouvoir, moi-même, en tant que miroir, répondre à ces échos. Merci.